émission, j'ai le plaisir d'accueillir Abdelkader Elhan pour son quatrième roman, Haram City, la cité des interdits. Paru aux éditions Jeanne d'Arc, Abdelkader Elhan est directeur de la mission locale en Haute-Loire, chevalier de l'ordre des Palmes académiques. Il est aussi représentant du comité opérationnel de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Bonjour. Avant de discuter de votre livre, je vais vous laisser nous faire le synopsis de Haram City, paru cette année.
Alors, c'est Haram City, c'est l'histoire de Samir Beniatou, un homme qui approche des 50 ans. Et à 50 ans, lui vient l'envie de faire le pèlerinage à la Mecque. C'est une obligation pour tout musulman, c'est le cinquième pilier de l'islam. Et en fait, avant de partir à la Mecque, Samir a besoin, la nécessité de faire un retour dans le passé, parce que dans le passé, c'était pas quelqu'un de très bien. Aujourd'hui, il est homme d'affaires à Bruxelles, il vit à Bruxelles, c'est un homme d'affaires qui a réussi, mais il a un passé peu glorieux, empreint de délinquance, et donc Samir va devoir retourner, revoir sa famille qu'il a quittée 30 ans plus tôt, et donc avec tout ce qui va s'avérer être nécessaire, c'est-à-dire essayer d'obtenir le pardon pour pouvoir partir à la Mecque.
Alors le titre, Haram City, la cité des interdits, Haram City, ça veut dire quoi ?
Alors le haram en arabe, c'est le contraire du halal, c'est-à-dire que c'est l'interdit en islam. Tout ce qu'on ne doit pas faire, c'est le haram, et tout ce qu'on doit faire, c'est le halal. Le halal, c'est pas simplement que la viande, parce que malheureusement, beaucoup de gens pensent que le halal, c'est que la viande. Absolument pas. Le halal, c'est les actes, c'est-à-dire on ne doit pas voler, on doit avoir un comportement halal, c'est-à-dire musulman, pas de vol, pas de meurtre, pas de ne pas insulter les gens, ne pas mentir, voilà, ça c'est halal. Et à l'inverse, mentir, voler, c'est haram.
Alors pourquoi avoir choisi ce titre pour ce quatrième roman ?
Eh bien c'est assez simple en fait. Globalement les musulmans, alors après c'est une analyse que je fais moi, prient Dieu par justement avec l'envie d'éviter le haram, c'est-à-dire par peur. La peur de faire des péchés, la peur d'aller en enfer. Et moi à travers cette histoire, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est plutôt l'amour de Dieu, c'est-à-dire ne pas forcément avoir peur du haram, mais plutôt envisager le halal comme quelque chose de naturel, de normal. Et prier Dieu par amour et pas forcément par peur.
Alors, votre roman, il est tout noir et le titre est en feu. Vous pouvez me l'expliquer comment ?
Eh bien, comme je le disais, le haram nous emmène en enfer. Voilà. Mm-hmm. Si on a fait trop de haram dans sa vie, on va direct en enfer.
En enfer, d'où le feu.
Voilà. Et donc, d'où les lettres de feu, c'est un peu le noir et les lettres de feu, c'est l'enfer. On imagine l'enfer un peu avec le feu, hein, normal pour. En tout cas, en ce qui concerne les religions monothéistes, elles ont tous la même punition, c'est-à-dire l'enfer, et c'est-à-dire brûler en enfer.
Alors, votre ouvrage commence par une citation. « Celui qui ne veut pas pardonner aux autres se coupe des ponts qu'il devra traverser, car tout homme éprouve le besoin de se faire pardonner. » À travers cet ouvrage, avez-vous utilisé quelques pans de votre histoire personnelle ou de vos expériences ?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anecdotes qui me sont arrivées dans ma vie que j'ai transposées dans mon héros, mon anti-héros. Voilà, parce que Samir Beniatou, c'est un anti-héros. Et oui, en fait, je trouve que le pardon, c'est quelque chose d'important dans la vie. On a beaucoup de mal à pardonner. Alors moi, je dis souvent, je pardonne, mais j'oublie pas. Et c'est le fait de dire j'oublie pas, d'une certaine manière, je pardonne pas. Voilà,
oui.
Exactement. Et donc, voilà, moi, je suis un humaniste optimiste. Dans mes romans, j'ai toujours beaucoup de bienveillance vis-à-vis des gens, vis-à-vis des personnages. Et même si les personnages sont toujours un peu... ont souffert de la vie, j'ai envie de dire. J'ai envie de rechercher en eux la pointe d'humanité qui pointe chez chacun d'entre nous. Et puis, je pars toujours d'un principe. C'est-à-dire que je dis toujours, personne n'est tout blanc ou tout noir. On a tous des nuances. Et moi, bien évidemment, j'ai des nuances. J'ai eu plus de nuances quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, ben, très modestement, à travers mes écrits, à travers mes conférences, à travers mon activité professionnelle, j'essaye de faire acte de bienveillance envers tous ceux que je peux rencontrer.
Alors, quels sont les auteurs ou les ouvrages qui vous ont inspiré ou qui vous ont poussé à écrire ?
Alors, un ouvrage plus particulièrement, c'est le premier livre que j'ai lu, c'est L'étranger de Camus. Je suis un amoureux de Camus, hein, c'est vraiment, voilà, c'est une... D'ailleurs, dans mes romans, je parle toujours de Camus, hein, parce que je crois qu'il a, il a suscité en moi l'envie d'abord de lire, je crois que ça c'est d'abord important. Je me suis jamais imaginé écrire. Alors, je me dis pas écrivain parce que je ne m'accorde pas ce titre. C'est à ceux qui lisent mes livres, hein, de me l'accorder. C'est pas à moi de me la, de l'accorder. Donc, mais Camus, voilà, c'est un des personnages les plus importants. Après, bien évidemment, il y a eu Saint-Exupéry. J'ai lu Diderot. Enfin, j'ai lu Nietzsche. J'ai lu beaucoup de livres qui m'ont permis vraiment de m'émanciper. M'émanciper intellectuellement, m'émanciper culturellement, m'émanciper cultuellement. Je crois que ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager cette chance que j'ai eue d'aimer la lecture, cette chance que j'ai eue de pouvoir justement trouver dans la lecture un remède à des tares que j'avais, hein. Dans mon premier roman, je disais, plus jeune, j'étais raciste, homophobe et antisémite. Et si je suis sorti de là, c'est aussi en partie grâce à la lecture.
L'importance de la lecture, et aujourd'hui, on voit bien que nos jeunes ont quand même cette problématique, ils lisent, enfin, je pense qu'ils lisent de moins en moins.
C'est ce que j'ai pu voir. Enfin, ils lisent plus parce qu'ils lisent les SMS, les mails, voilà,
Ils
donc
lisent pas la même
les, voilà,
lecture que...
exactement, Facebook et tout ça. Donc, ils lisent, globalement, ils lisent plus, mais ils lisent de moins bonne qualité, j'ai envie de dire. Alors, je ne vais pas faire le procès de la jeunesse, au contraire. Mais après, j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai, je pense, hein, et très modestement, que ma lecture est facile et elle trouve écho auprès des jeunes qui vivent dans les quartiers, mais pas seulement
pas
en milieu
seulement.
Rural. Et c'est assez intéressant. Donc, j'ai plein de retours de jeunes qui, parfois, ont lu leur premier livre à travers le mien. Bon, en pleine face, a vraiment fait écho dans beaucoup de quartiers, beaucoup de cités pour le coup. Et maintenant, je pense qu'il y a des jeunes qui me suivent aussi parce que voilà, parce que mon écriture, mes personnages surtout, leur ressemblent.
Dans Ram City, justement, vous utilisez de nombreuses anecdotes, comme le couscous fluo ou les vacances à Belle-Île, pour laisser place à l'humour dans un roman qui aurait pu être très noir. C'est une volonté de votre part de dédramatiser la vie des quartiers, mais aussi de montrer la solidarité des habitants dans un quartier populaire.
Exactement. Mais franchement, je ne raconte que la réalité. C'est ça qui est beau, en fait. C'est que ces anecdotes, le couscous, Belle-Île en mer, me sont vraiment arrivées. La circoncision aussi. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui, alors avec le recul, hein, parce que quand on le vit sur le moment, c'est pas top, mais avec le recul, c'est exceptionnel ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai 10 vies en une, hein, vraiment, je le dis avec beaucoup de sincérité. Et dans les quartiers, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de partage, il y a des magnifiques histoires de vie. Et à travers mes romans, c'est ce que j'essaye de partager. J'ai souvent des personnages hauts en couleur, qui ressemble étrangement aux personnages en couleur que j'ai connus dans ma jeunesse et que je rencontre encore ici et là quand je fais des dédicaces. Donc c'est ouais, c'est la réalité vraiment à travers une fiction.
Alors entre le passé de Samir et son retour à Douai, la jeunesse est au centre de votre roman. Quel changement entre votre jeunesse, ou la mienne d'ailleurs, parce que je pense qu'on a à peu près le même âge, dans un quartier populaire et les jeunes d'aujourd'hui?
Franchement, je ne pense pas qu'il y ait de gros changements, si ce n'est que la société a changé. On a des jeunes qui sont à l'image de notre société, comme moi j'étais à l'image de la société de 1980. Voilà, je pense que les jeunes n'évoluent pas forcément, ils s'adaptent simplement à leur société. Et ce qui me semble aussi aujourd'hui être intéressant, c'est de voir qu'on a une jeunesse qui est riche d'apprentissage, à travers notamment les réseaux sociaux, hein. Mais on a aussi une jeunesse qui est désabusée par la société. On a une jeunesse. Alors, je vais pas non plus dire que notre jeunesse, à cause du Covid, vit difficilement. Il y a eu des jeunesses qui ont traversé des guerres, qui à mon avis ont eu beaucoup plus de difficultés. Mais en même temps, je crois que on peut pas comparer les jeunesses. C'est-à-dire que moi, je fais des interventions auprès des entreprises et je dis toujours aux entreprises, ne cherchez pas dans le jeune d'aujourd'hui le jeune que vous étiez il y a 20 ou 30 ans, parce que sinon vous allez vous planter. Et les jeunes sont à l'image de notre société, encore une fois. Et à travers mon livre, ce que j'essaye de dire, c'est que toutes les jeunesses se ressemblent et que parfois, même si on a des jeunesses qui sont difficiles, on peut pas revenir, on peut pas rattraper sa jeunesse, ça c'est une réalité. Et en même temps, on peut aussi, moi c'est ce que j'ai fait, hein, utiliser sa jeunesse pour après en tirer le meilleur et pour changer. Comme je le disais, j'étais raciste, homophobe et antisémite. Aujourd'hui, je lutte contre tous ces fléaux. Donc je crois qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie.
Alors, vos personnages sont en couleur et reprennent tous les profils que l'on peut trouver dans un quartier populaire. Il y a le trafiquant de shit, le religieux, le débrouillard, le jeune qui veut s'en sortir par l'école, etc. Mais la violence, quand même, c'est ce qui m'a un petit peu interpellée dans ce livre. La violence reste un dénominateur commun. Pensez-vous que l'enfance des jeunes des quartiers, que ce soit à Douai ou à Saint-Étienne, impose une violence induite dans leur vie d'adulte ou d'une manière particulière d'appréhender la vie, voire leur avenir?
Je crois que quand on est jeune, la violence, elle fait partie de la vie. Qu'on habite en milieu rural ou en milieu urbain, je pense franchement que la violence, je le vois à travers des jeunes que je rencontre à Issingeaux, hein, qui n'est pas forcément très urbain, la violence, ça fait partie de la vie. Alors il y a la violence physique, il y a la violence verbale, on a du racket, on a du harcèlement, on a tout ça dans la vie de tous les jours quand on est jeune. Et la violence, donc, je voulais absolument qu'elle fasse partie, qu'elle soit un fil rouge dans cette histoire. Parce que ce que j'essaie aussi de faire comprendre, c'est qu'on peut sortir de la violence, même si elle se rappelle souvent à nous. C'est difficile à dire, mais la violence, ça fait partie de ma vie pendant tout un temps. Bon, pas seulement en tant que boxeur, hein, parce que je suis un ancien boxeur, mais elle a fait partie de ma vie parce que c'était à un moment donné, ça faisait partie des codes. Si on n'est pas parmi les plus forts, ou en tout cas si on ne sait pas se défendre dans un quartier, c'est sûr qu'après la vie est beaucoup plus difficile. Donc parfois il faut savoir montrer les points pour être respecté.
Alors dans votre ouvrage, on constate que les propres enfants de Samir ont une vision erronée de l'islam qui se limite aux attentats avec le cri par exemple d'Allah Akbar, des décapitations médiatiques et d'un islam rigoriste. Pensez-vous qu'il y a un vrai manque de connaissance de l'islam et plus globalement des religions dans le livre de notre jeunesse ?
Très franchement, oui. Moi, en tout cas, je fais beaucoup de conférences, comme je le disais, et il y a un dénominateur commun que j'ai pu voir à travers beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés, qui se disent musulmans, qui ont une méconnaissance, mais importante, de la religion. C'est-à-dire que ils savent prier, ils savent dire des sourates, mais en revanche, ils ne connaissent pas la genèse de l'islam. C'est-à-dire, vous allez poser à un jeune une question basique, à savoir quand est-ce qu'est arrivé le Coran, il va être incapable de vous dire que le Coran est arrivé 15 ans après la mort du prophète. De la même manière, vous allez lui dire les hadiths, ils sont arrivés quand, il va être incapable de vous dire qu'ils sont arrivés 200 ans après la mort du prophète. Enfin, c'est des choses qui sont basiques pour quelqu'un qui a eu un minimum de savoir, en tout cas qui s'est interrogé sur la religion. Mais force est de constater que beaucoup de jeunes ne connaissent pas la religion. Et surtout, moi, dans le livre, ce que j'essaie aussi de défendre, c'est de dire qu'il faut mettre de la raison dans sa pratique religieuse et pas forcément mettre de l'émotion. Parce que quand on met de l'émotion, on perd franchement le vecteur le plus important, à savoir qu'à un moment donné, on oublie l'autre, celui qui n'a pas la même religion que nous. Et mettre de la raison, c'est important, dans sa culture religieuse, parce que ça permet justement de rester en contact avec l'être humain.
Et du mieux vivre ensemble aussi, je dirais.
Ça fait partie du mieux vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on peut respecter l'autre quand on a mis de la raison. Comme Samir le dit dans le livre, il dit il ne peut pas s'obliger à l'autre, à celui qui n'est pas musulman. Il dit aussi assez justement qu'il n'a que sa vérité, c'est-à-dire qu'il a une foi qui est quand même pas solide. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne dit pas la religion musulmane est la vraie religion. Il s'interdit de dire ça parce que ce n'est que sa vérité. Et ça, c'est important aussi. Moi, à titre personnel, j'ai fait des conférences avec des évêques et je leur ai toujours dit, moi, la religion musulmane, ce n'est que ma vérité. Je ne peux absolument pas vous l'imposer. Je ne peux pas vous dire oui, c'est moi qui ai raison et pas vous. Voilà. Et je crois que ça, c'est aussi respecter l'autre.
Alors, dans votre roman, Ram City, La Cité des Interdits, vous évoquez les sorties, les activités des structures d'animation de quartier. Quelle est votre vision de l'évolution des structures sociales dans les quartiers ou l'accompagnement justement de la jeunesse aujourd'hui ?
Elles sont nécessaires. Elles sont vraiment nécessaires parce qu'elles ont un rôle important. Elles ont un rôle d'abord de catalyseur de la colère de la jeunesse. Je pense que ça, c'est important. Et puis aussi, surtout, je pense que les associations, les centres sociaux amènent de la culture dans les quartiers. Et moi, je suis absolument convaincu que la culture est nécessaire justement pour aller vers l'émancipation, comme je l'ai dit en introduction. Et si je pouvais, la culture serait obligatoire, voyez, parce que je pense qu'elle peut apporter. La culture, c'est le théâtre, c'est le cinéma, c'est la lecture, c'est... Enfin, il y a il y a tellement de modes de culture que on peut tous trouver la culture qui nous va bien. Et ce qui est certain, c'est que la culture, c'est une plus-value importante dans, dans ce rapport à l'autre, dans ce rapport à Dieu, dans ce rapport, quand on est croyant, bien évidemment, dans ce rapport à la vie. La culture apporte énormément. Moi, le type de culture que j'aime, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, la lecture, mais pas que, j'aime le théâtre. J'ai été à l'opéra. Quand j'étais plus jeune, si vous m'aviez dit qu'un jour j'irai à l'opéra, je me serais moqué de vous, alors que j'ai adoré. Et voilà, et je crois que la culture appelle la culture, et ça c'est important.
Justement, la culture qui arrive par le biais justement de ces structures d'animation de quartier, mais on est en train d'enfermer pas mal des MJC, des structures de quartier.
Parce qu'après, bon, c'est toujours le financier qui l'emporte, hein, et je crois que c'est un mauvais calcul de la part de nos dirigeants. Alors après, c'est très aléatoire, parce qu'il y a aussi les communes, hein, qui participent, qui font aussi en sorte que la culture soit une institution dans les quartiers. C'est des réalités, voilà, comment dire, communales parfois. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que en faire l'économie, c'est une tare après pour la commune, c'est une tare pour notre société.
Mais on voit bien aujourd'hui que la République, malgré tous les plans politiques de la ville et d'autres plans, d'ailleurs, on n'arrive pas à retrouver le lien avec la jeunesse. Comment on peut l'expliquer, ça ?
Je pense que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que la jeunesse a pas forcément, comment dire, a du mal à se projeter, et on peut la comprendre. C'est vrai qu'avec le Covid, avec tout ce qui se passe autour de nous, les conflits, l'extrême droite qui augmente, la zémorisation des esprits, c'est vrai que ça fait un peu peur. Et si j'étais jeune aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais beaucoup de questions à me poser. Enfin, je me poserai beaucoup de questions. Déjà, en tant qu'adulte, en tant que bientôt cinquantenaire, je me les pose. Donc, imaginez un jeune. Et en même temps, je crois que pour vraiment connaître les jeunes, hein, parfaitement, parce que je suis directeur d'une mission locale, notre jeunesse est quand même... moi, j'ai foi en la jeunesse, et je suis absolument convaincu que notre jeunesse va changer le monde dans le bon... va changer le monde, en tout cas, en meilleur, et faire en sorte que la société puisse être... plus enclin à l'empathie.
Votre roman se déroule entre Bruxelles en Belgique et Douai. Pourquoi pensez-vous que la réussite de Samir aurait été plus difficile en France qu'en Belgique ?
Non, pas forcément. En fait, il a choisi la Belgique parce qu'il voulait sortir de la France, parce qu'il était recherché. Mais non, je pense que la Belgique, pour bien connaître ce pays, j'ai envie de dire, connaît les mêmes difficultés que la France. Si ce n'est que peut-être, hein, on n'a pas de Zemmour en Belgique, donc ça, c'est quand même... ils ont quand même un avantage sur nous. Mais après, non, Samir, en fait, il aurait pu réussir n'importe où. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il a eu les moyens de réussir, et il a su faire. Et puis surtout, il a rencontré une personne qui lui a permis justement de réussir. C'est-à-dire que Caroline, sa femme, elle le tire vers le haut. Elle lui permet justement, à travers le goût de la lecture, de s'émanciper. Je suis très, très attaché à ce mot, d'émancipation, hein, parce que moi, je l'ai vécu à plusieurs titres. Et donc, je pense, voilà, c'est ça. Samir aurait réussi n'importe où s'il avait rencontré une Caroline.
Une bonne personne, quoi. Enfin, une personne qui le tire vers le haut.
C'est ça.
Alors, votre roman, qui est sorti il y a pas très longtemps, tombe aujourd'hui en pleine actualité avec Éric Zemmour, que vous citez, mais que vous citez aussi dans votre ouvrage. Alors, pourquoi le citer dans votre ouvrage aussi ?
Parce que la zémorisation des esprits aujourd'hui est importante, et je trouve que on le combat pas assez au quotidien, et qu'on le banalise. Et moi, ça me rend triste de banaliser les propos qu'il tient. Je pense qu'il y a 20 ans, personne n'aurait pu utiliser les propos qu'il a aujourd'hui. Et moi, ça me gêne. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, la liberté d'expression, j'y tiens, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, et tant mieux que Zemmour parle, Mais j'ai envie aussi qu'en face, on ait des gens qui soient là pour lui dire bah, tu te trompes. Et simplement, en fait, moi, je vais faire du Patrick Sébastien, hein, ça va être utopique un petit peu ce que je vais faire, mais c'est prenez l'amour, prenez l'envie de d'aider l'autre, l'empathie, la bienveillance, enfin, tous ces mots qui sont extrêmement importants, qui vont contre les mots de haine que lui dessert un peu partout.
Ou par exemple, Zemmour prône les prénoms plus franchisés, mais on voit bien que dans votre bouquin, Samir a utilisé la même chose. Les prénoms de ses enfants sont plus français que plutôt avec ses origines. Comment on peut l'expliquer du coup puisque...
Et c'est fait exprès.
C'est fait exprès.
C'est fait exprès parce qu'en fait, si vous voulez, ce que Zemmour prône, vous avez par exemple, vous avez des jeunes français sur plusieurs générations qui se convertissent et qui changent de nom. Voilà, ils prennent Mohamed ou je sais pas. Et moi, ça me rend triste, parce que pourquoi changer de prénom ? Ils peuvent garder leur prénom, Pierre, Patrick, et rester musulmans et pratiquer la religion musulmane. Je veux dire que c'est vraiment avoir une piètre opinion de Dieu que de penser que Dieu va envoyer en enfer quelqu'un parce qu'il s'appelle David. S'il fait ses 5 prières, s'il fait son ramadan, si... Dieu va passer à l'as tout ça en disant « Ah non, mais attention, tu t'appelles David, donc ça va pas, tu vas aller en enfer. » Donc, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de changer son prénom. C'est une liberté, c'est la liberté chacun. Des parents. Voilà, c'est la liberté des parents de pouvoir donner à leur enfant quelque chose qui chérisse, l'être qui chérisse le plus au monde, le nom qu'ils ont envie. Je crois que ça, c'est important. Et c'est une réponse à Zemmour, justement, de dire des deux côtés. Moi, des deux côtés, je ne souhaite pas qu'on change les prénoms. Je veux que cette liberté demeure. Et quand on donne un prénom à un enfant, j'ai envie qu'il le garde, tout simplement.
Alors, dans votre ouvrage, vous évoquez aussi les difficultés d'acceptation des familles lors de mariages mixtes. Samir ment sur son passé et a d'une certaine façon honte de ses origines, on peut le dire comme ça, vis-à-vis justement de son épouse de sa famille.
Ouais, c'est pas tellement qu'il a honte de ses origines, c'est qu'il s'est inventé une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, il a donc prétexté qu'il était un enfant de la DAS. Comme ça, c'était beaucoup plus facile pour lui. Et comme ça, au moins, il n'y avait pas pour séduire Caroline, c'était beaucoup plus facile pour lui. Mais il n'a pas de honte d'être ce qu'il est. Simplement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis de côté, il a enterré le Samir qu'il était pour justement renaître dans une nouvelle vie et se fondre dans la vie que lui proposait Caroline. Caroline, c'est une fille de bourgeois, et donc Samir, il savait que s'il parlait de son passé, il n'avait aucune chance.
Alors, votre roman, Ram City, évoque aussi le retour de la religion, notamment pour les personnes de notre génération, mais aussi auprès des jeunes, où elle revêt plutôt d'une notion d'identité ou de la volonté de se différencier des autres citoyens français. Comment vous l'expliquez ?
Je pense que c'est les deux. J'ai souvent vu des personnes qui avaient complètement tourné le dos à la religion. J'en ai vu beaucoup, hein, qui avaient tourné le dos à la religion et qui, à l'approche de la cinquantaine, la soixantaine, revenaient vers la religion. Je crois aussi que très simplement, quand on s'approche de la mort, on se dit tiens, peut-être que Dieu existe et que peut-être que Dieu va nous aider, peut-être que ça sera plus facile de mourir en pensant qu'il y a quelque chose plutôt que de mourir en imaginant qu'il n'y a rien. D'ailleurs, les premières paroles du livre, c'est ça, c'est de dire Samir dit je préfère qu'il y ait un enfer, quitte à aller en enfer, mais au moins en enfer je vis. Plutôt que d'imaginer ne plus vivre, qu'il n'y a rien après la mort, que ce soit le néant. Donc il préfère justement l'enfer et être vivant. Et ce retour, j'ai envie de dire, aux religieux, il se fait naturellement. Il se fait aussi d'une certaine manière par identité et surtout par hérédité. C'est-à-dire que je connais beaucoup de gens qui sont musulmans, catholiques ou juifs par hérédité. S'ils étaient nés dans une famille autre, ils auraient eu une toute autre trajectoire. Et c'est ça que j'essaie aussi de combattre, c'est de dire ne soyez pas religieux par hérédité. Votre foi, il est nécessaire de la chercher, de la travailler, c'est-à-dire de se renseigner, de lire, d'apprendre. Je crois que c'est extrêmement important pour après choisir sa religion. Moi, je dis toujours, je fais des conférences aussi dans les mosquées, je dis, ma foi, je l'ai mis en doute. J'ai douté de Dieu, j'ai été chercher les informations, je me suis renseigné. Et je crois que ça rend ma foi encore plus forte que les autres.
Alors le bouquin, on peut le trouver où pour les auditeurs qui vont avoir envie de le lire après ce passage à Radio Andenne?
Alors partout, allez dans votre librairie en priorité, hein, moi je veux faire qu'on fasse vivre les librairies, mais sinon on peut le trouver partout, sur les réseaux, en ligne, voilà, partout.
D'accord. Abdelkader Elhan, merci d'être venu à Radio Andenne présenter votre bouquin. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler un prochain roman?
Oui. Alors, je travaille deux romans. Un roman et un essai aussi, qui devrait s'appeler « Sale temps pour un musulman ».
D'accord. Bon, bah écoutez, on aura le plaisir d'en reparler sur la fréquence du 90.9 de Radio Andenne. Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt, au revoir.